Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons méditer ce soir sur un sujet qui nous parle des œuvres et les merveilles. Alors, je ne sais pas si le sujet va vous intéresser. Enfin bon, le titre déjà, il évoque les œuvres merveilleuses de Dieu. J'aimerais prendre trois images, si vous voulez bien. On va les décomposer, on va se nourrir de ces quelques versets de la parole de Dieu. Alors il y a d'abord les œuvres de la création naturelle. Alors on sait ce qu'il en est, nous avons des yeux, nous avons des oreilles, nous avons aussi bien d'autres sens pour admirer, contempler, identifier les œuvres merveilleuses, naturelles, que Dieu a créées. Et puis il y a les œuvres de la création spirituelle. Alors ça c'est au cœur de la Bible, hein. Message de l'Évangile, la personne de Jésus-Christ, ce plan rédempteur de Dieu à travers ce que nous avons coutume d'appeler cet accès, c'est par la foi, tout simplement. Ça c'est une œuvre extraordinaire dans laquelle nous avons plongé nos regards et nous nous sommes aperçus que ce que Dieu fait, c'est merveilleux. Dans la nature, dans le monde spirituel, c'est-à-dire un monde qui là est tout à fait différent de ce que je viens de vous dire, ce n'est pas les sens qui appréhendent ce monde-là, mais c'est notre esprit, c'est autre chose. Et puis il y a les œuvres, ce que j'appellerais de la création intelligente de l'homme, image de Dieu. Vous savez que dans le livre de la Genèse, il nous est dit que Dieu a fait l'homme à son image. Alors c'est vrai que quand l'homme, ne se tourne pas vers Dieu quand il est sans espérance, c'est une image défigurée, avec tout ce que nous pouvons voir dans le monde, de choses horribles, terribles, suscitent l'horreur même, le lait, et puis toutes sortes de choses semblables, mais il y a également la perception de ce que Dieu a créé l'homme à son image, et parce que c'est une image morale, bien sûr pas une image physique, Dieu est esprit, mais qui fait que, à travers tout cela, cette œuvre de création intelligente, c'est-à-dire que Dieu a doté l'homme, de capacités intelligentes, ce qui fait la différence avec les animaux, que c'est très primaire, très précaire, mais l'homme est capable de penser, de créer, de fabriquer, enfin, toutes sortes de choses comme cela. La première proposition que j'aimerais donc voir avec vous, parce que, me semble-t-il, elle est intéressante, et on va commencer par celle-ci, ce sont les œuvres de la création naturelle. Voilà, il y a dans ce souffle que Dieu a donné à son univers, à notre monde, un souffle qui se perpétue. Alors c'est parti depuis les temps immémoriaux, et puis ça se renouvelle. Voilà, le soleil se couche toujours là, à l'envers d'où il s'est levé, et puis c'est le mouvement perpétuel en quelque sorte. À travers les océans, à travers les saisons, à travers le monde qui, bien qu'il change, le principe ne varie pas. Alors, on va parler justement de cette œuvre de création naturelle, et j'aimerais que nous prenions un texte dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, nous avons un tout petit texte, c'est une toute petite parabole que nous allons voir. Donc Matthieu chapitre 13, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 13, et je vais lire simplement deux versets. Et il est dit ceci, le royaume des cieux, le royaume qui doit venir, le royaume des cieux est encore semblable, nous dit Jésus, à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté en délaissant tout ce qu'il possède, parce que à la découverte de cette perle de grand prix, il s'est aperçu que tout cela valait tout l'or du monde. Alors il s'est défait de ses maisons, de ses champs, enfin de son avoir. Il s'agit d'un marchand, hein, de quelqu'un qui trafique des marchandises, mais certainement, eh bien là, d'une distinction particulière, parce que quand on est marchand de perles, quand on est marchand en joaillerie, la clientèle est tout à fait particulière. Hein. C'est quand même des gens qui ont de l'argent pour estimer que ce qu'ils vont acheter, l'acquisition qu'ils vont faire, eh bien, c'est quelque chose donc de non seulement d'onéreux, mais ça a de la valeur. Alors, Jésus nous comparera, il nous dira, mais le royaume des cieux, c'est-à-dire cette espérance que nous avons qu'après cette vie, il y a là un autre monde. Il s'appelle le royaume des cieux, Jésus le nomme de cette manière, et il dira, voilà à quoi comparerai-je finalement le message de l'évangile qui apporte cette espérance. Alors il dira, mais il est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et on peut s'imaginer que cet homme n'est pas à son premier coup, il a certainement passé une grande partie de sa vie à chercher, mais un jour, il en trouve une qui est exceptionnelle. Et alors à ce moment-là, eh bien, il s'empresse, sans délai, et il court faire la vente de tout ce qu'il a, et pour une perle, il vend tout le reste, pour vous montrer la valeur et l'intérêt qu'il a trouvé naturellement dans cette perle. J'aimerais expliquer, si vous le voulez bien, le phénomène de la perle. C'est quelque chose qui est peut-être connu, mais bon, peut-être nous le rappeler, parce que quand Jésus nous dit « le royaume des cieux, c'est la plus grande et la plus belle des perles », il faut savoir de quoi on parle. Et nous avons donc quelques explications du phénomène, eh bien là, à donner. Je dirais tout simplement, et je vais faire un petit rappel, on l'a déjà entendu, mais peut-être pour ceux qui nous rejoignent, il y a quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'étonnant, de surprenant, dans l'origine de la formation de la perle, et c'est quelque chose d'unique. C'est unique au monde, et nous allons y faire une analogie spirituelle, entre cette création naturelle, avec cette autre dimension qui est finalement le domaine de Dieu. D'abord, une perle, c'est une concrétion calcaire nacrée. Je pense que, madame, vous avez plusieurs colliers de perles chez vous. Mais pas des perles de culture, des perles naturelles. Parce que bon, ça vaut pas la peine, les perles de culture. Hein? Voilà. Je ne voudrais pas trop insister, parce que c'est bientôt la fête des mères, ça va me coûter cher. Enfin bon, toujours est-il que une perle, c'est quelque chose de valeur, on peut le dire, nacré. Et en quelque sorte, ça se décompose avec 91% de carbonate de calcium qui se forme en couches concentriques autour d'un petit noyau. C'est intéressant à prendre en compte parce que vous allez voir où ça nous amène. Et c'est nacré et c'est irisé. Vous voyez un petit peu, vous avez une image de ce que vous en avez tous chez vous des perles, naturellement. Hein? Alors, enfiler les perles, vous savez ce que ça veut dire aussi. Hein? Donc, et nous voyons que cette concrétion autour d'un petit noyau, et nous verrons ce que c'est que le noyau, eh bien, ça se développe au cœur d'une huître. Voilà. Hein, alors, si vous allez, les grandes marées sont finies, mais si vous allez là sur la côte, faites la recherche des huîtres à perles ou des huîtres perlières. Vous allez voir, vous pouvez en trouver, vous pouvez devenir riche. Hein. Je ne crois pas qu'on en ait trouvé beaucoup par ici. Hein, c'est surtout en Asie hein, que ça se fait. Et c'est tout simplement une réaction chimique entre l'animal, l'huître, et puis tout simplement la présence d'un petit grain de sable qui tombe, parce que vous savez que c'est un filtre, l'huître. Alors ça prend, ça souffle, etc., etc. Et c'est un filtre en quelque sorte, et tout ça, c'est une réaction qui se fait à travers donc un petit grain, un élément étranger ou un parasite qui vient au cœur de l'huître, et elle ne peut pas s'en défaire, parce que bon, je pense que il doit y avoir, mais bon, elle ne peut pas être toute expulsée, mais ce petit grain, eh bien, soi-disant qu'elle ne peut pas l'expulser. Dans le langage perlier, on parle tout simplement de lustre, quand on veut parler d'une perle, on parle de grain, on parle tout simplement, eh bien, de poids ou d'orient. Hein, ce sont des qualificatifs des spécialistes, hein, naturellement, je me suis renseigné un petit peu. Vous savez que la plus grosse perle qui a été trouvée au monde, alors attention, elle a été trouvée en 1934 en Indonésie, elle pèse exactement 6 kg 370. Vous avez ça, vous passez pas inaperçu. Et vaut mieux quand même mettre un manteau ou un cache-col par-dessus. Parce que je pense que c'est pas votre personne qui va intéresser, c'est surtout la perle. Hein. Et vous risquez de vous faire étrangler avec le collier. Hein. Mais c'est quelque chose, c'est la plus grosse, hein, qui n'a jamais été repérée dans le monde. Donc on s'aperçoit que tout cela, eh bien, c'est quand même assez intéressant. Et Jésus va prendre l'image de la perle. Il va nous parler finalement, eh bien, de cet petit élément. Je l'ai dit il y a un instant, c'est un corps, un grain de sable. C'est un corps étranger. En quelque sorte, c'est un intrus, eh bien, à la vie de l'huître. Et c'est ainsi que les choses se développent. Maintenant, quand on remet sur le plan spirituel, dans la création de Dieu, c'est une création naturelle, cette perle. Ça va se faire sur plusieurs années, hein, soi-disant que dans les cultures de perles, eh bien, ça demande 5, 6, 7 ans, et etc. À l'état naturel, je ne sais pas, c'est pour ça qu'elles sont peut-être plus grosses, hein. Elles sont même pas calibrées d'ailleurs. Alors, dans la création de ce que Dieu a fait, et particulièrement de l'homme, il y a eu un grain de sable. Dans le livre de la Genèse, il y a eu un intrus, il y a eu un corps étranger que l'on appelle le péché. Voilà. Et on sait tous ce que ça veut dire, on a lu la Bible. Et puis, on a tous, même si on n'en a pas trop le détail, de toute façon, quoi qu'il en soit, eh bien, on sait très bien que le péché, eh bien, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Mais l'homme l'a introduit, enfin, voilà, par sa désobéissance, enfin, on va pas revenir sur la Genèse. Mais toujours est-il que c'est véritablement, eh bien, là, quelque part, ce qui a compliqué la vie des hommes. Et qu'est-ce que l'on peut faire avec le péché? Il nous est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salut gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et ça, on a les deux choses. Donc, c'est pas un état figé, c'est pas quelque chose qui est définitif, le péché n'est pas définitif. À partir du moment où, véritablement, eh bien, nous entendons la parole de Dieu, nous ouvrons notre cœur comme l'huître, à ce moment-là, eh bien, va faire son travail, et il va y avoir un processus de perdition au salut. Et à partir finalement de ce grain de sable, Dieu va établir un plan de salut, un plan de secours pour que l'homme ne soit pas perdu, que cet intrus, que ce grain de sable ne vienne pas détruire l'humanité. Alors naturellement, on pense tout de suite à l'évangile, on pense à Jésus-Christ, on pense à bien des choses. Le péché, alors moi j'aimerais justement peut-être donner quelques détails sur ce grain de sable. Alors j'ai un résumé, hein. Il est très très condensé, il est très simple. Eh bien voilà, dans l'évangile de Marc au chapitre 7 et au verset 14, il est dit ceci, c'est Jésus qui enseigne ça à travers une parabole. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, Jésus lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Écoutez-moi tous et comprenez. C'est une leçon de choses. Et qu'est-ce qu'il dit un petit peu plus loin au verset 21? Alors on va le voir. Jésus dira, c'est du dedans, comme le grain de sable, vous savez, comme dans l'humanité, comme le péché qui a été introduit dans le monde. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent. Alors on va voir les différents grains de sable, hein, les intrus. D'abord les mauvaises pensées. Ensuite, il y a les adultères, c'est-à-dire la trahison. Ensuite, il y a les débauches, le comportement désordre qui fait tout et n'importe quoi. Il y a les meurtres, ça, gravissime. Il y a, mais les autres aussi, hein. Il y a les vols. Il y a les cupidités, c'est-à-dire l'amour immodéré de l'argent. Il y a les méchancetés, et ça, finalement, eh bien, vise notre prochain, où nous ne cherchons pas son bien, mais nous cherchons à lui faire du mal, les méchancetés. Il y a la fraude, c'est-à-dire tromper. Il y a les dérèglements. Ce que Dieu a fait dans les principes qui sont immuables, l'homme a cherché finalement à les contourner. Il y a le regard envieux qui débouche quelque part, eh bien, naturellement, sur des infractions. Il y a également la calomnie, dire du mal dans le but de détruire la réputation de quelqu'un. Il y a l'orgueil. Alors, on sait ce que c'est. Et puis, ça finit par la folie. Voilà ce paquet de grains de sable. Voilà ces corps étrangers qui ont été jetés dans le monde à travers la chute d'Adam, et qui font qu'aujourd'hui, mais nous en sommes les héritiers, et qu'on le veuille ou pas, nous naissons avec ces grains de sable, nous naissons avec ces intrus qui sont dans notre vie et qui vont se développer au fur et à mesure de notre vie, naturellement. Jésus dira, mais toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà, c'est au niveau du cœur, c'est au niveau de son esprit que les choses ont été véritablement, corrompues en quelque sorte. La défense de l'huître, lorsqu'elle absorbe cet élément étranger, c'est d'envelopper, tout simplement, de recouvrir, d'envelopper l'élément étranger pour l'éliminer et que finalement, il disparaisse. Alors on pense aussi à ce que Jésus a fait. Jésus est venu pour nous délivrer des œuvres du diable, mais il est venu pour nous délivrer du péché. Il est venu pour nous apporter le pardon. Il y a une analogie spirituelle dans cette affaire. Si on met les deux en parallèle, et on sait très bien que nous, pour nous chrétiens, c'est naturellement la foi et la grâce qui nous permet. C'est pas parce qu'on va se nettoyer l'extérieur, comme font bien des pharisiens et les gens religieux, mais c'est une question de nettoyer à l'intérieur notre esprit, notre conscience, notre âme, notre personne nous-mêmes, c'est-à-dire que notre moi profond naturellement, et on s'aperçoit qu'à travers le sang de Jésus, la foi dans le sang de Jésus, c'est pas autre chose, à travers l'expiation, c'est-à-dire que Jésus a payé pour nous. Nous nous sommes approchés de Jésus, nous avions été culpabilisés par notre vie passée, à ce moment-là nous en parlons à Dieu et nous lui demandons pardon et Dieu nous purifie, il nous lave, il nous justifie, c'est ce qu'on appelle l'expiation. Et la rédemption, c'est que nous sommes rachetés. Comprenez? Ça, c'est le travail de l'huître. Elle va enrober, avec le temps, avec une substance chimique qui va faire que cet affreux petit élément va disparaître, comme cette affreuse corruption humaine, à un moment donné, va disparaître. Et nous savons que tout ça, c'est l'œuvre de Jésus qui change le mal en bien. Tout simplement, l'effet qui se produit, c'est tout simplement cela, le mal en bien, le lait, un vulgaire petit caillou, on se demande ce qu'il fait là, elle va le changer en splendeur de la perle. Eh oui, c'est beau une perle, c'est magnifique, ça a de la valeur naturellement, la grâce et la foi. Donc on retient l'histoire de la perle. C'est une création naturelle, l'œuvre de création naturelle de Dieu. Ça se fait de cette manière pour que de mauvais, ça devienne bon, d'inutile, de vulgaire, ça devienne quelque chose, de splendide et de magnifique. On va voir maintenant les œuvres de la création spirituelle. On en a déjà parlé, mais on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de détailler ce que la Bible nous dit autour de cette question. La Bible introduit, et par rapport à l'Évangile, surtout, bien sûr, les anciens prophètes en avaient déjà parlé. Je pense à Jérémie, je pense à Ésaïe, quand il est dit que Dieu fait la promesse pour les temps à venir, à l'époque du prophète ou des prophètes, « Je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Je changerai l'esprit des hommes. » C'était des paroles qui étaient déjà diffusées dans l'Ancien Testament et qui devaient laisser espérer qu'il y aurait un changement. C'est pour ça qu'on est passé de l'Ancien Testament, la loi, au Nouveau Testament, la grâce, la foi. Et c'était des paroles qui étaient diffuses comme ça. Elles étaient à l'état latent, elles n'étaient pas encore réalisées. Mais quand Jésus est venu dans ce monde, une des premières choses qu'il nous a enseignées, et j'en tiens pour preuve l'évangile de Jean, il a parlé d'une nouvelle naissance. Il a parlé qu'il pouvait y avoir chez les hommes, l'humanité, quel qu'il soit, blanc, noir, religieux ou non, peu importe, mais tous ceux qui seraient, appelés par Dieu, parce qu'ils sont tous appelés, qui répondraient à son appel, s'ils le voulaient, ils pouvaient croire à cette bonne nouvelle, et à ce moment-là, le cœur de l'homme pouvait être changé. Impossible pour nous, changer notre cœur. Impossible de modifier quelque chose, parce que c'est naturellement mauvais, pas injuste, pas un seul n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu, etc. On pourrait multiplier naturellement toutes ces choses. Mais un jour, il y a un homme qui vient voir de nuit, vous le connaissez, Hein, Jésus s'appelle Nicodème, un homme instruit, un homme, un érudit, un homme certainement de bonne mentalité. Oui, je crois. Et il vient complimenter Jésus en disant « Mais nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. » Donc, il reconnaissait que Jésus venait de Dieu en raison de la puissance et du surnaturel et du miraculeux que Jésus déployait sur la terre comme venant de Dieu. Et Jésus va surprendre cet homme qui enseignait les autres dans la foi, qui enseignait le judaïsme, enfin les lois et les prophètes, etc. Mais il ne savait pas une chose. Un homme religieux, mais il ne savait pas le principal. Jésus lui dit « Il faut que tu naisses de nouveau ». Oh, là, ça a été une surprise pour lui. Il n'avait jamais entendu cette expression. Comme il y a des millions et des millions de gens autour de nous qui ne savent pas ce que veut dire naître de nouveau. On est bien né naturellement une première fois. Mais on sait que cette naissance va nous conduire à la mort inexorablement. Et puis finalement, il n'y aura plus grand-chose d'autre. Non. Jésus va insister à travers un petit paragraphe qui est, je crois, le chapitre 3 de l'évangile de Jean pour lui montrer par le détail ce que peut être l'histoire de la perle, en quelque sorte. Le péché qui va disparaître et qui là va se changer, qui va se métamorphoser dans une dimension toute nouvelle. L'homme nouveau. Je suis né de nouveau. Et nous sommes nés de nouveau parce que nous avons entendu l'appel de Dieu, nous y avons répondu et il s'est passé une transformation à l'intérieur de nous-mêmes. Donc l'homme nouveau, changé, sauvé, pardonné. Et si nous voulons tourner un passage dans Corinthiens, par exemple, on va voir par le détail ce que l'œuvre surnaturelle, l'œuvre spirituelle de Dieu dans la vie des hommes qui croient en lui. Qui croient en lui, hein, je signale. 2 Corinthiens 5, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 5. Et on va lire à partir du verset 17. C'est très simple, hein, vous allez voir. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre surnaturelle de Dieu. Et au verset 17. Et Paul dira ceci, « Si quelqu'un est en Christ, si, hein, c'est une condition, personne n'est obligé. Et celui qui entend l'appel, il répond, alors à ce moment-là, il est en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il reçoit le pardon de Dieu. Il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Ou créature peut-être dans votre Bible, peu importe. Il y avait une première création dans le jardin de la Genèse. Cette première création a donné des bébés qui sont devenus des enfants, qui sont devenus des hommes. Et puis après, naturellement, il y a tout un parcours. Mais dans l'humanité, dans la vie d'un homme, tard ou tôt, ou tout simplement en milieu d'existence, il y a une possibilité de naître de nouveau, d'une vie nouvelle. Alors il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Oui, il y a un avant et un après Jésus-Christ, comme dans les livres d'histoire, même si les historiens ne croient pas. Et peu importe. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Elles sont devenues. Elles ne l'étaient pas. Je les ignorais. Je les ai indifférées par cause d'ignorance, naturellement. Je ne le savais pas. Mais maintenant que je le sais, eh bien, mon regard, mon cœur, ma vie, c'est quelque chose de nouveau. Je ne suis plus pareil qu'auparavant. Si auparavant j'avais les angoisses et les terreurs de mourir, aujourd'hui j'ai une espérance. Et j'ai la paix à l'intérieur de moi-même. La joie du Seigneur est au fond de moi-même. C'est devenu nouveau. Et il nous est dit au verset 18, et tout cela vient de Dieu. Ça vient pas de l'homme. C'est pas en nous fabriquant un salut, des bonnes œuvres, en essayant de nous racheter par des mérites ou des qualités humaines ou autre chose. Tout cela vient de Dieu. C'est absolu. Ça vient d'en haut, cela. C'est la vie de l'esprit. C'est une autre dimension que la vie religieuse. Et comment cela vient de Dieu? Parce que c'est Dieu qui est l'auteur, qui nous a réconciliés avec lui, par Jésus-Christ. Parce que c'est en croyant en Jésus-Christ. C'est parce que j'invoque Dieu au nom de Jésus-Christ. Et pourquoi Jésus-Christ? Parce que Christ est venu dans ce monde, il est mort sur la croix, il s'est mis entre son Père, le Père Céleste, son Père Céleste, et moi perdu. Et il a dit à son Père Céleste, « Tu me punis, moi, mais tu les absous, eux. » Et parce que j'ai cru, parce que j'ai mis ma confiance, je ne suis plus condamné, je ne suis plus jugé, mais je peux rentrer maintenant en communion, réconcilier. Vous savez ce que c'est qu'une réconciliation? c'est quand des gens sont ennemis en inimitié et que finalement il n'y a rien, c'est pas possible, hein. Alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui se fait, mais la réconciliation ne peut se faire qu'avec le pardon. Il n'y a pas de réconciliation s'il n'y a pas de pardon des fautes, des erreurs, de part et d'autre quand il s'agit de deux individus naturellement. Et c'est quelque chose de merveilleux qui nous est donné. Donc, la perle. L'homme nouveau, l'homme nouvelle créature, l'œuvre de Dieu qui se fait. La troisième, donc, concerne la poterie. Ah ouais? Un vase précieux. Et nous allons lire, par exemple, si vous voulez lire avec moi, on va lire dans Jérémie chapitre 18, quelques versets. Et c'est intéressant parce que là, nous allons toucher quelque chose de particulier qui complète notre première réflexion. Vous savez que dans l'atelier d'un potier, il y a des tas d'argile. Hein. Et l'argile est informe, c'est souvent assez sale hein, d'ailleurs, hein. Hein, c'est d'un brun de différentes teintes naturellement. Donc de l'argile informe va devenir, figurez-vous, par quel miracle ? C'est un miracle naturel, mais on va le voir un petit peu dans le détail. L'argile informe va devenir une œuvre d'art magnifique, merveilleuse, une œuvre d'art aboutie. Alors peut-être que vous avez chez vous aussi quelques petites collections de porcelaine de Limoges, des faïences de Sèvres, des faïences de Delphes, par exemple. Enfin, il y en a de par le monde, hein, ou peut-être même des vases précieux de l'Orient, hein, ce sont des artistes. Alors, on s'aperçoit que comment une masse de terre, de poussière, alors on va dire ça comme ça, parce que ça nous ramène un peu à la Genèse, comment un tas de poussière, enfin, un tas d'argile, hein, c'est un petit peu plus compact, comment cela peut-il devenir, finalement, eh bien, il n'y en a pas là. Si, oh là, il est magnifique celui-ci. Hein.
Il a de la valeur. Hein.
Il sonne creux, mais bon. Hein. Enfin, bon, il y en a ici, il y en a pas là-bas. Ils sont très beaux, ils sont en plastique. Hein. Donc, là, c'est de l'argile. Vous pouvez dire que c'est de la qualité. Mais toujours est-il, comment ça, vous voyez là, peut-être pas vous, hein, mesdames, mais comment ça, à l'origine, était un tas, hein, une masse. Tout simplement, là, gluante, un petit peu dégoulinante, hein, c'est un peu répugnant. Comment ça peut devenir comme ça? Alors, on l'a dit tout à l'heure, les œuvres de la création intelligente de l'homme, faites à l'image de Dieu. Vous savez, les singes, hein, ils sont pas prêts d'écrire des romans, ils sont pas prêts de faire de la poterie, ils sont pas prêts de faire du tricot pour mesdames singes, etc., etc. Hein. Un singe, c'est un singe, hein, et un animal, c'est un animal. Qu'est-ce que vous voulez? Mais l'homme, il a été créé à l'image de Dieu, avec des capacités de penser, de réfléchir, de fabriquer, de faire des choses formidables. Et c'est vrai que quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que de cette argile informe, eh bien, il va en sortir une œuvre d'art de grande valeur et précieuse. Jérémie, je vous l'ai dit tout à l'heure, chapitre 18. Qu'est-ce qu'il nous est dit? On va voir un petit peu plus loin après. Jérémie, verset 2. 18.2, c'est Dieu qui donne cet ordre à Jérémie le prophète. Il lui dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles, parce que tout vient de la parole, de toute façon. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faussait ne réussit pas. Ah, ça peut arriver. Comme il arrive à l'argile, dans la main du potier, il en refit un autre vase. Tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc, c'est un texte qui nous rapporte naturellement à l'histoire ancienne d'Israël, mais on peut peut-être lui donner une signification. Parce que si ces paraboles, assez rares finalement, par rapport au Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y a quand même quelque chose qui nous parle. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'homme nouveau, du vase ancien qui ne réussit pas, qui n'aboutit pas. Et c'est pas beau, ça ne se fait pas, ça ne cuit pas, ça n'a aucune forme. Donc ça ne réussit pas. Ça, c'est l'homme. L'homme dans sa solitude de Dieu, l'homme dans son détournement de Dieu, dans ses révoltes. Hein. Voici, il travaille sur un tour, le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme l'argile dans la main du potier, voilà. Et il en refait un autre. Dieu a refait un homme nouveau à travers la personne de Jésus, à travers cette proposition de l'évangile, à travers de ce que quelqu'un a payé le prix. On en a parlé tout à l'heure quand il s'agissait de l'homme nouveau, naturellement. Et là, il a refait un autre vase, ancien, nouveau testament, comme il l'a trouvé bon. Parce que le plan de Dieu, il est parfait, hein, je voudrais vous le dire. Hein. Ouais. Il était parfait au départ, et puis ça n'a pas réussi, non pas à cause de Dieu, mais à cause de l'homme. Et après, Dieu ne s'est pas résigné à perdre ses créatures. Ces créatures dont il avait fait le couronnement, l'homme, couronnement de la création. Il ne s'est pas résigné, ils sont perdus, maintenant ils vont en enfer, ils sont pour l'éternité. Non, Dieu même, déjà dans les premiers moments de la chute au chapitre 3 de la Genèse, avait déjà prévu un rédempteur. Connaissez 3, chapitre 15, vous le relirez, et vous verrez ce qu'il en est. Alors, Dieu va donner la leçon, il va dire, mais voilà, vous êtes entre mes mains. Moi, les mains de Dieu, si vous voulez, hein. Si vous le voulez, si vous le désirez, si vous avez bien compris ma bonté, mon amour, ce que je peux faire pour vous, ce que je peux vous donner pour votre bonheur présent et éternel, alors vous êtes entre mes mains. Et nous voyons qu'il va en ressortir quelque chose de formidable, non pas du peuple d'Israël pour l'instant, mais à travers ce que nous pouvons appeler le message de l'Évangile qui a donné naissance à l'Église, à un peuple nouveau, à une société nouvelle, c'est-à-dire l'homme nouveau. On en parlait il y a quelques instants naturellement. Et nous voyons que Dieu a donné, si nous voulons aller plus loin pour faire les parallèles entre la notion spirituelle et la notion tout simplement, eh bien là, des choses naturelles. C'est Dieu qui a créé l'argile. C'est Dieu qui a créé l'eau pour mêler l'argile, pour pétrir l'argile. C'est encore Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme, finalement, pour fabriquer un tour, d'une manière très rudimentaire dans l'Antiquité. Maintenant, hein, les choses sont industrielles, mais bon, même dans le domaine industriel, il fallait trouver le principe pour faire fonctionner. Hein, ça marche certainement à l'électricité, avec maintenant c'est des ordinateurs et tout ce que vous voulez. Mais une chose, bien que le métier de poter reste quand même très artisanal, quoi qu'il en soit. Enfin bon, peu importe. Dieu a donné. Il est à l'image de Dieu, l'homme. Il lui a donné l'intelligence pour faire tout ça. Et qu'est-ce que l'on fait avec un vase? On peut en faire un vase d'usage vil, c'est-à-dire pour la domesticité, pour le commun, pour toutes sortes de choses. Hein, voilà, un pot, tout simplement. Mais il a donné aussi la capacité dans les mains de l'homme et dans sa conception, dans la tête de l'homme, de faire des merveilles. Quand vous voyez, par exemple, hein, les porcelaines, vous savez que c'est du kaolin, c'est certainement l'argile le plus fin et le plus noble qui soit. Quand vous voyez, par exemple, la porcelaine de Limoges, c'est quelque chose hein, de grande valeur. Hein. Enfin, bon, c'est une valeur, en tous les cas. Et de voir les formes, de voir ce que l'homme est capable de faire. Et une fois que le vase ou l'assiette ou le plat a été cuit, vous vous rendez compte, après, il y a des artistes qui passent derrière. Je ne sais pas si vous avez visité quelquefois une petite industrie ou un petit artisanat de poterie. Dites donc, hein, c'est des dames qui font ça, hein, parce qu'elles ne tremblent pas, hein, mais elles font des dessins magnifiques, merveilleux, c'est extraordinaire. Hein. C'est éblouissant, hein. C'est comme ceux qui soufflent le verre, vous rendez compte? Vous rendez compte de faire un cheval en soufflant dans un tube? Un cheval. Et puis de faire des choses qui sont magnifiques, merveilleuses. On s'émerveille devant cela. Parce que je voudrais quand même vous rappeler que, mis à part le péché, eh bien, l'homme a reçu l'intelligence à l'image de son Dieu. On est vraiment différents des animaux, hein? Alors, tout ça, c'est bien, ça nous parle des capacités artistiques extraordinaires. Dans Romains chapitre 9, je vous lis, hein, ne tournez pas la page parce que c'est très très bref. Au chapitre 9 et au verset 20, il nous est donné cette parole quand il est dit « Mais le vase d'argile, on est toujours chez le potier, hein, le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Ah oui, contestation, opposition, de dire « Mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme je suis ? J'aurais pu être autrement, j'aurais pu être un roi ?» J'aurais pu être un président de la République déconseillé en ce moment. Hein. Mais bon, toujours qu'on ne pourrait avoir. On n'est jamais content de ce que l'on a. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Tu te rends compte? Moi, j'aurais voulu avoir des beaux cheveux blancs, et ils sont noirs. J'aurais voulu avoir une peau blanche, et je suis noir, etc., etc. Mais c'est continuel, hein. Voilà. On n'est jamais content de notre sort. C'est l'insatisfaction qui est venue avec le péché, hein. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi contester avec Dieu? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Qui est notre roi, notre seigneur et notre maître? C'est nous-mêmes ou c'est Dieu? Si nous sommes passés par la nouvelle naissance, nous avons maintenant pris l'option que c'était plus nous qui dirigions le bateau, c'était lui qui était le capitaine. Et jusqu'ici, preuve du contraire, après des années où nous le connaissons, il nous a toujours conduit au bon port, il nous a toujours protégés, il nous a donné la sécurité dont nous avons besoin et tout ce qui nous était nécessaire pour vivre. On l'oublie, hein. Enfin, dans tous les cas, le monde l'oublie naturellement, hein. Alors, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Non. Nous étions d'un usage d'usage vil auparavant, dans notre corruption, dans nos péchés, dans nos mensonges, dans nos jalousies, dans toutes sortes de choses. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait le processus de la perle. C'est que petit à petit, à travers la nouvelle naissance, il a fait de chacun d'entre nous, eh bien là, un vase d'honneur, un vase de grand prix, une perle de grand prix. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre, hein, à travers le message de l'Évangile. Parce que c'est ça. Quand on regarde, on se dit, mais l'Évangile, ça mène à où? Ça mène à quoi? Et qu'est-ce que ça va faire dans notre vie? Mais c'est que chacun d'entre nous, s'il nous a appelés, et vous avez répondu, et c'est formidable, c'est que Dieu a un plan. C'est que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. On n'est pas pareil, c'est bien. Heureusement, parce que Dieu a fait dans sa création une véritable mosaïque extraordinaire, un jaillissement, un éblouissement de couleurs, de teintes, de différentes choses, en musique ou autre chose. Mais c'est justement, c'est ça la création de Dieu. Et heureusement que nous ne sommes pas tous pareils. Vous vous rendez compte? On aurait tous la même tête, les mêmes cheveux, hein? On a quand même déjà la même tête, on a les mêmes bras et puis les mêmes jambes, parce qu'on est à peu près au complet, non? Mais toujours est-il que notre personnalité est quand même différente des unes des autres, hein? Et c'est bien d'ailleurs. Ce serait la monotonie si on était tous pareils. Vous vous rendez compte? On serait tous des, comment on appelle ça? Des clones? Ouais, mais vous savez, ça va venir, il paraît, hein? Ah ouais, on va tous être pareils, hein? Comme ça, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de manifestation ni de révolution, hein? Non, mais ça vous fait rire, mais vous savez, on y est bientôt, hein? Hein? Préparez-vous, hein? Enfin bon, je vous dis ça comme ça, mais c'est pour vous rassurer. Un vase d'honneur entre les mains de notre Dieu. La perle est là pour nous le dire. L'homme nouveau est là pour nous dire, c'est notre expérience. Le vase, entre les mains du potier, eh bien, il se fait. Tiens, à propos du divin potier, le potier ordinaire, l'artisan, il travaille avec sa tête, parce qu'il a déjà le projet en vue, hein. Quand il est en train de concevoir quelque chose, peut-être qu'il se laisse un petit peu, eh bien, à l'interprétation, je ne sais pas, de son art, hein, ou l'improvisation, mais avec sa tête, il a déjà, il sait ce qu'il va faire. Il met sa masse d'argile, puis après, bon, voilà. Mais moi, c'est quand même avec sa tête. Et vous savez que les mains du potier, les mains chez un potier, les mains du potier qui travaille, il prend la masse d'argile, il la monte toujours vers le haut. Elle s'élève pour faire un beau vase. Eh oui, elle est plate, c'est une masse informe, et là, entre ses mains, elle s'élève. Lorsque nous donnons notre vie entre les mains de Jésus, c'est pas pour nous abaisser, c'est pas pour nous laisser tout plat, mais c'est qu'il nous élève, parce que ça tourne, comprenez? Et puis il travaille aussi avec ses pieds. Et les pieds donnent tout simplement, impriment la vitesse et impriment également la rotation du tour. Et c'est parce que ça tourne que nous sommes formés. C'est parce que notre vie, eh bien, entre ses mains, elle s'élève et que le Seigneur nous forme, mais si c'était un tour qui ne bougeait pas, ce ne serait pas un tour d'abord, on ne l'appellerait pas un tour puisque ça tourne, mais c'est ce qui permet finalement l'évolution. Et quand Dieu nous prend entre ses mains, il nous garde, et nous sommes en sécurité, nous sommes rassurés, ça c'est une chose, et il nous forme. Et puis les pieds, vous avez vu, hein, cette pédale en bois là, hein, aujourd'hui c'est électrique, mais voilà, et ça donne les mouvements, ça donne la cadence, et c'est ce qui permet de donner la forme. Il va quelquefois jusqu'avec sa main, jusque dans le cœur du vase. Il le monte. C'est magnifique, une main. Hein? Vous savez que c'est l'outil universel, les doigts, la main. Eh oui. voyez plus fort que la main d'un homme. C'est le bec d'un oiseau qui construit son lit. Alors là, moi, ça me souffle, parce que moi, vous me demandez de construire un nid avec ma bouche, alors là, je peux vous dire. Là, il faut prendre le mort entre les dents. Hein. Mais toujours est-il que c'est extraordinaire, la nature. Mais les mains d'un homme, c'est extraordinaire. Vous voyez, j'en ai cinq. Hein. Vous, c'est pareil, non? Bon, je suis à peu près au complet. Mais toujours est-il que ça, c'est l'intelligence que Dieu nous a donnée à son image, bien que Dieu n'ait pas de pied ni pas de main, naturellement. La conclusion, et je termine maintenant. La perle, vous vous souviendrez? Les choses se font dans le temps, dans le secret du cœur d'une huître, dans le froid de l'océan, ou dans le chaud, je ne sais pas, mais toujours est-il dans caché au regard. Et quand on découvre la perle de grand prix, on dit, mais on laisserait tout pour ça. C'est ce que Jésus nous enseigne. La nouvelle naissance, il y a une joie avec les naissances. Quand on a eu nos premiers enfants, même après le dernier, la dernière, c'est toujours quelque chose de formidable quand un enfant vient au monde, à une maman, et puis même une famille, un papa naturellement, un couple qui a un enfant, c'est toujours une grande joie. Mais vous savez, dans l'Église, quand il y a des nouvelles naissances, quand un homme, une femme, même un vieillard, un jeune homme ou une jeune fille, quand il découvre l'Évangile, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Eh oui, et on peut dire tu es mon frère et tu es ma sœur parce que nous avons le même père, parce que nous vivons dans la même famille, nous mangeons le même pain, on peut dire ça aussi, et nous avons là à partager véritablement ce que le Seigneur nous a recommandé, aimez-vous les uns les autres, et c'est ce qui fera la garantie finalement de la famille, perle, nouvelle naissance, le vase de grand prix. Vous dire quand même qu'on n'est pas des potiches. On n'est pas là statique, en attendant que le ciel, pas nous tombe sur la terre, parce que ça c'était les Gaulois, mais que véritablement, on sait que Jésus va revenir, et puis qu'on va aller au ciel, et on est tranquille dans un transat, en attendant que les choses se passent. Non, non, non. C'est pour ça que j'ai voulu dire, parce qu'une potiche, hein, c'est un vase de vulgaire. Hein. Voilà. Ça, c'en est une potiche. Voilà. Vous irez regarder, vous irez voir hein, les détails de la belle œuvre qu'il y a dessus. Hein, et puis, n'arrosez pas les plantes parce que c'est des artificiels. Mais toujours est-il que c'est quelque chose de formidable parce que nous avons été appelés à travailler. Nous sommes dans les mains du Père. Il nous a montré, allez, dites au monde entier ce que vous savez. La perle, la nouvelle naissance, le vase de grande valeur. Et c'est ce qui nous fait passer de l'élément étranger, du petit grain de sable, l'intrus, c'est ce qui nous fait passer du commun et du vulgaire à l'excellence. Que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce. Nous allons prier quelques instants de vulgaire à l'excellence. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole, parce que nous croyons, Père éternel, qu'elle est venue ce soir nous rafraîchir quelque part, pour nous dire que le royaume des cieux, eh bien, est comparable à la perle. Le royaume des cieux, pour y rentrer, c'est d'être un homme nouveau, une femme nouvelle, changée, transformée, pardonnée. Et puis, en effet, entre tes mains, tu nous prends, Seigneur, et tu nous fais grandir. Parce que être entre les mains de Dieu, de Jésus-Christ, c'est toujours nous élever. C'est toujours aller plus haut. Tu es venu nous chercher comme une masse d'argile, et puis tu nous élèves toujours vers le ciel. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Et si quelquefois, eh bien, nous sommes soumis à des, en effet, variations de rotation, de vitesse ou de lenteur, mais c'est parce que tu sais tout ça. Tu sais que tu es en train de nous former dans tel et tel détail. Et que il faut que quelquefois le pied du potier aille plus vite. Quelquefois, il faut qu'il ralentisse. Il faut qu'il aille tout doucement. Mais tout ça, Seigneur, c'est pour atteindre la perfection. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu nous bénis, Seigneur, s'il te plaît, ce soir. Tu nous rappelles véritablement ces grandes valeurs de l'Évangile. Et nous voulons te dire, Seigneur, que nous sommes heureux d'avoir un potier divin. Nous sommes heureux, Seigneur, de ce que tu as couvert, nos péchés, notre corruption. Et que du lait, que ce qui est pas beau, Seigneur, ce qui est en effet abject, tu en as fait véritablement un bijou et un joyau précieux de grande valeur. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité et pour l'enseignement de ta parole, et cela au nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.